Section 5, speed her up, 4-1.
Ma montre! On m'a volé ma montre!
Hat's das Kind, Kind war?
Ça va durer combien de temps?
Ma montre en or!
Quand a commencé le temps? Et où finit l'espace?
Hat's das Kind, Kind war? Wusste es nicht, dass es Kind war?
Et si on arrêtait tout?
Temps de pause.
Quelle heure est-il?
Je n'ai pas de montre.
Anne Mathéus.
Avec Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli.
Eh bien voilà, on est deux dans une bulle.
Et oui, nous faisons à nouveau mentir notre petit indicatif. Nous ne sommes pas que deux dans cette bulle. Nous sommes trois dans ce studio. Jean-François Lejeune est en face de moi, il est aux commandes. Et nous sommes ravis, bien sûr, de vous accueillir dans ce temps de pause. Troisième temps de pause de la semaine. Deux invités, nos deux invités qui travaillent ensemble depuis une vingtaine d'années. Elle est comédienne et musicienne, chanteuse et compositrice aussi depuis peu. Il est scénographe, un virtuose de la lumière, metteur en scène. À deux, ils ont fondé une compagnie théâtrale, Chroma. Chroma qui veut dire couleur en grec. Et cette compagnie tend vers une expérience théâtrale totale, proche sans doute de ce qu'était la tragédie grecque antique. Donc une expérience où fusionnent le visuel, le musical et le langage théâtral. Ensemble, ils ont découvert, il y a quelques années, la quatrième dimension. Alors la quatrième dimension, c'est un recueil de poèmes d'un grand poète grec du XXe siècle, Yanis Ritsos. Recueil de 17 brefs poèmes que Ritsos a consacrés à des figures féminines ou masculines de la mythologie grecque. Et parmi ces figures mythiques, c'est d'abord Ismène que nos deux comparses de la compagnie Chroma ont fait leur. Donc ils se sont appropriés cette Ismène en faisant un spectacle, une magnifique aventure qui a été récompensée en 2009 par le prix de la meilleure création technique. Cette Ismène a aujourd'hui une sœur, à vrai dire depuis la saison dernière déjà. Elle s'appelle Phèdre et elle a été créée à Liège et aujourd'hui elle se retrouve à Bruxelles sur la scène du théâtre Les Tanneurs. Quelques dates seulement, il faudra se dépêcher d'aller voir Ismène. Phèdre, c'est jusqu'à ce samedi. Phèdre, c'est en fait le deuxième volet d'un triptyque. Le troisième est prévu pour l'an prochain déjà et sera consacré à un troisième personnage masculin, celui-là. Il s'agit d'Ajax. Alors, ravi de vous accueillir tous les deux, Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli. Merci d'être avec nous dans Temps de Pause. Bonjour. Vous avez donc lancé cette magnifique aventure autour de la poésie de Ritsos. C'est trois seuls en scène, hein, ça je ne l'ai pas dit, mais Marianne, vous assumez cela toute seule sur la scène, mais bien entourée par un décor tellement signifiant qui vous fait comme un écrin. Il y a de la musique, il y a du texte, il y a plein de technologies, mais qui donnent aussi un côté archaïque à ce travail. On va parler de toutes ces références qu'on trouve chez Phèdre, chez Ismène plutôt. Alors, est-ce que j'avais envie de vous poser une première question? Est-ce que l'ambition, ce sera d'un jour réunir les trois volets du triptyque en une seule soirée? Ça paraît très ambitieux, trois seules en scène d'affilée, mais après tout, ce serait formidable. Marianne Pousseur.
Mais c'est un projet. C'est un projet et nous espérons vraiment pouvoir le mettre en œuvre et le voir aboutir, ce projet. Quelle forme est-ce qu'il prendra exactement? Nous allons voir, mais bon, visiblement, c'est un projet qui excite aussi des organisateurs. Donc, voilà, je pense que ça va se faire. Voilà, comment ça va se passer exactement, dans quel rythme, quelle forme ça va prendre, nous ne le savons pas encore. Je pense que ça arrivera. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Enrico Bagnoli.
Non, je pense que c'est une difficulté, c'est un défi, mais on aime bien les défis, oui. Donc c'est pas impossible. On est partiellement un peu habitué à ce type d'opération. Par exemple, je pense à beaucoup de spectacles que j'ai fait avec Don Cassirs, les cycles Proust, les cycles. Donc, c'est toujours bien quand on travaille sur, pas sur un spectacle, mais sur un projet. Il y a toujours un moment, souvent dans un festival, dans lequel on a la possibilité de voir le travail des 7 ou 8 ou 10 ans. Et c'est incroyable. Et c'est une opération qui fait grandir énormément, aussi bien les interprètes, les artistes, mais aussi le public. Le public est fort excité de l'idée de faire une immersion totale. Et quand j'étais arrivé en Belgique il y a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, j'avais eu l'opportunité de faire ça avec Ténor. Alors à l'époque, c'était une pièce flamande de Luc Perceval dans laquelle on passait tous les rois de Shakespeare, de Richard II à Richard III, en passant partout. Et alors, un jour, il y avait les marathons, donc. Et les marathons étaient un truc, on commençait à 11h du matin et on sortait à minuit. Et alors, il y avait la possibilité en semaine de voir une soirée 2, encore une soirée 2, et la troisième soirée 2, ou alors les samedis et les dimanches, le marathon. Et les gens préférer ce type de forme. Et maintenant, je suis tout récent donc, dans la plongée, dans les rings de Vermeer.
Ah ben oui, j'allais le dire. Donc voilà. Là, cette expérience a été incroyable. Il faut souligner, d'ailleurs, pas n'importe quel ring. C'était le ring du bicentenaire à la Scala de Milan. Une magnifique aventure avec, effectivement, des complices de haut vol. Hein.
Oui, il y avait donc, justement Daniel Barenboim, que c'était pour lui, je pense, une centaine fois qu'il faisait le ring, alors que pour nous tous, c'était la première. Et non, mais c'était formidable. Et surtout, c'était formidable de voir comment les publics venaient un peu de partout dans le monde, parce que finalement, il y avait plus que 60% d'étrangers comme ça. Donc, ils venaient d'Australie pour voir ça. Et que pendant une semaine, ils se détachent de tout et ils font le ring dans les temps de Wagner. Donc, je pense que le public, toujours, quand il y a la possibilité d'assister à un événement, quelque chose, et de faire une full immersion, quand on avait travaillé sur Proust, c'est aussi un peu l'activité du lecteur. Le lecteur qui lit Proust, c'est très rare qu'il lise un livre le soir, comme je fais avant de dormir. Parce que, par contre, il y a des gens qui prennent un congé et qui lisent tout, quoi.
Il y a un phénomène d'addiction. C'est un peu comme les séries télé, finalement.
Voilà,
la prochaine série, Ismène, Phèdre et Ajax, donc on espère pour bientôt. Et Marianne, un peu d'entraînement physique.
Oui, voilà. Il va falloir prendre des vitamines.
À performer cela sur scène. Alors, nous allons entrer dans cette émission, après cette belle introduction, dans un paysage sonore, hein, comme toujours, il y a un paysage sonore aussi, pour ouvrir l'émission. On va ouvrir la fenêtre de ce studio et partir dans une école. Avant cela, je dois quand même vous confier un objet. Enrico Bagnoli, Marianne Pousseur, l'un de vous devra prendre une photo au cours de cette émission. C'est notre petit rituel, histoire de nous laisser un souvenir visuel, une trace visuelle de votre passage parmi nous. L'appareil photo se trouve là. C'est une vieille machine, loin de vos belles technologies, Enrico Bagnoli. Mais ça fonctionne. Donc voilà, un pola d'ici la fin de cette émission, c'est quand vous voulez. Nous, on part dans cette école pour rencontrer un personnage de la mythologie.
Mnemosyne. Ein
sprach.
Une école primaire de la région bruxelloise, c'est l'école communale numéro 7 de Molenbeek.
Tout à fait.
Dans laquelle nous avons entendu Marianne Pousseur chanter une pièce de son père, Henri Pousseur, Némosine. C'est un extrait qu'on a entendu ici, d'après un fragment d'Ölderlin. Et cet extrait d'un enregistrement que vous avez fait paraître en 2011, je crois. Chez
Sub Rosa. Je ne me rappelle pas la date. Oui, c'est
croyez-moi,
ça, 2011,
en 2011, voilà. Chez Sub Rosa. Vous êtes seule et puis vous enregistrez des pièces diverses dans des environnements sonores. Et on peut mentionner d'ailleurs le sonorisateur de cet enregistrement.
Qui est Diederik de Kock, qui est notre complice de toujours, en tout cas sur tout l'ensemble de la trilogie, et qui est un magicien du son. Avec qui nous tenons beaucoup à travailler.
Voilà, travail de haute précision, comme l'est d'ailleurs tout ce spectacle. C'est vraiment millimétré sur le plan de la mise en scène, de la scénographie. On va en parler, bien sûr. Mais peut-être qu'avant cela, il faut parler de Yanis Ritsos, de cette rencontre avec cette poésie qu'on connaît finalement peut-être pas très bien chez nous, alors qu'il est reconnu comme l'un des tout grands poètes du XXe siècle.
Oui, un tout grand poète et une figure de héros national. Pour les Grecs. Hier soir, à la représentation, il y avait une dame d'origine grecque qui est venue me trouver et qui apparemment connaissait très très bien Ritsos. Et c'est souvent le cas des Grecs que je rencontre. Et donc, c'est une figure vraiment... je ne sais pas à quoi on pourrait la comparer pour nous. C'est très dommage qu'il ne soit pas plus connu. L'intégrale du cycle La Quatrième Dimension n'est pas éditée en français. Et mon rêve, évidemment, serait que si nous concluons cette aventure du triptyque, en même temps, il y ait une édition de La Quatrième Dimension en français, ça le mériterait.
Alors c'est un poète qui a une vie tourmentée. C'est vrai que la Grèce au XXe siècle a connu des heures sombres sur le plan politique. Il était un opposant au régime totalitaire et donc un opposant vraiment d'extrême gauche. Il a été enfermé pendant de nombreuses années. Je crois que c'est vers la fin de sa détention qu'il écrit ce recueil. J'ai lu 72 et apparemment c'est en 74 qu'il est véritablement libéré à la chute.
C'est un recueil qui couvre une dizaine d'années. C'est
ça. Et malheureusement, le colonel, donc, il avait enfermé dans une île presque déserte, une des milliers d'îles grecques, et on l'y détruisait aussi. Les fruits de son travail. On lui détruisait ses écrits au point que beaucoup de choses nous sont arrivées jusqu'à nous parce qu'il les mettait dans des bouteilles, un verre, et il les enterrait. Mmh. Et comme ça, après la libération de la dictature, on a pu retrouver son matériel. Et moi, je le vois parfaitement quand j'entends ces textes. J'imagine de le voir, lui, dans la solitude, tout seul, avec simplement, effectivement, son idéologie fortement de gauche, mais aussi cette passé extrêmement cultivé, imprégné de culture classique, qui élabore. Donc, ce n'est pas un hasard que la forme aussi dramaturgique, ce sont toujours des monologues de quelqu'un qui parle et qui s'adresse à une autre personne qui écoute. Ça, dans toute la quatrième dimension, ce sont des dialogues avec un interlocuteur muet. Et je vois très bien Ritsos. Je trouve que c'est une énorme capacité, sa grandeur, c'est celui de ne pas faire une opération d'actualisation de la tragédie, comme on a souvent. Il y a dans Phèdre, si je ne me trompe pas, je vais un peu au hasard, mais je pense que c'est autour de 160 rééditions, réécritures de Phèdre, que ce soit des opéras, jusqu'à le tout récent comme Sarah Kane.
En passant par Racine.
Bien sûr, par Racine, mais je vais dire, on a toujours voulu prendre ce personnage et le réécrire en adaptant à un hôpital psychiatrique plutôt qu'à une situation politique comme ça. Chose que Ritsos, c'est pour ça qu'on l'adore, il ne fait jamais, il ne réécrit pas la tragédie, il continue la tragédie, il prolonge les personnages.
Et on a l'impression d'être hors du temps, en fait.
On est hors du temps, sauf les deux ou trois moments qui sont comme des petits chocs électriques dans lesquels on écoute les frigos, ou les réverbères, ou les camions bâchés. Il nous parle de la guerre de Thèbes dans Ismène, il parle de guerre-révolution, Et donc, on est à Thèbes. Et après, dès le matin, on voyait arriver les camions bâchés. Et donc, du coup, on est dans la dictature des colonels. Ça, je trouve génial parce qu'il nous montre une universalité des propos. Les guerres, c'est l'Amérique latine, c'est Pinochet, mais c'est aussi Thèbes. Enfin, et ça nous démontre que rien n'a changé. Et nous, voilà, on fait un lien direct avec lui. C'est comme si on revenait aux sources en sautant des années des cultures un peu ce qu'on appelle judéo-chrétiennes, c'est-à-dire on arrive aux sources pures, et même dans Phèdre, je dirais que déjà Racine s'est déjà imprégné du jansénisme et comme ça, et donc la religion, elle rentre, alors que, bien sûr, pas dans Ritsos, qui est, je pense, laïque d'une façon, oui. Mais même dans la culture grecque, on a cette sorte d'archétype de notre civilisation, sans avoir les couches... laissé par la religion.
Oui, ce sont les racines vraiment profondes. Hein. Et donc, il y a ces personnages que vous avez choisis, en particulier dans ce recueil, puisqu'il y a 17 personnages. Alors, c'est vrai que quand on pense à des récits mythologiques, on pense à des faits et gestes, des aventures extraordinaires. Et là, en fait, pas du tout. L'histoire passe au second plan. Elle est sous-entendue. Il faut la connaître, même. Si on ne la connaît pas, on est un peu perdu, il faut bien le dire. Mais on est vraiment dans la tête de ces personnages, donc Ismène, Phèdre, il y aura Ajax également. On suit l'évolution mentale de ces personnages et on va vers la tragédie, fatalement. En tout cas, avec Phèdre, c'est très clair qu'on va vers la mort. Marianne Bousseur.
Oui, les trois personnages, en réalité, vont vers la mort, même si ce n'est pas toujours dit de façon aussi claire. Dans le cas de Phèdre, c'est la seule issue. Elle ne peut pas faire autre chose. Le refus d'Hippolyte est quelque chose de tellement violent que...
D'ailleurs, on va peut-être rappeler, hein, parce que...
On va rappeler, voilà, je vais rappeler. Donc, en réalité, le texte original, disons, est une pièce de Ripide qui ne s'appelle pas Phèdre, mais qui s'appelle Hippolyte, dans lequel on raconte l'histoire qui est que Phèdre, ayant épousé Thésée, se retrouve souvent seul à la maison avec son beau-fils, hein, Hippolyte. Et Hippolyte est un jeune homme, très sportif, et il vénère la déesse de la chasse. Et il délaisse la déesse de l'amour, qui s'en trouve relativement vexée. Et elle décide de se venger, et pour ça, elle fait en sorte que Phèdre tombe amoureuse de son beau-fils. Phèdre est une femme d'âge mûr, et Hippolyte est un jeune homme.
Elle pourrait être sa mère.
Elle pourrait être sa mère. Elle n'est pas sa mère, elle n'est même pas liée à lui par les liens du sang, mais il y a quand même une espèce d'inceste sous-jacente, là. Et elle ne veut pas lui avouer son amour, et finalement, ça nourrit la pousse à le faire, en lui disant qu'elle va se sentir mieux si elle le fait. Elle le fait, et Hippolyte réagit d'une façon extrêmement violente. Dans la pièce de Ripide, le texte, la réponse d'Hippolyte à cette déclaration d'amour est d'une violence vraiment inouïe. Il lui dit « Les femmes ne devraient pas exister. Pourquoi est-ce que les dieux ont fait en sorte que les enfants naissent des femmes? On devrait pouvoir payer pour avoir des enfants. Hein? Les femmes, c'est une malédiction. » Donc, tout ceci n'est pas dit dans la pièce de Ritsos, mais l'humiliation, l'intensité de l'humiliation de Phèdre se retrouve très puissamment dans le texte de Ritsos. Qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'en fait, toujours chez Euripide, elle décide de se venger. Elle va se suicider en laissant une lettre à Thésée, en lui disant « Ton fils a essayé de me violer ». Et Thésée punit Hippolyte en le bannissant, enfin, etc. Tout ça ne figure pas du tout dans le texte de Ritsos. Dans le texte de Ritsos, on a l'impression d'assister à la dernière heure de Phèdre, dans laquelle elle lui dit en même temps combien elle l'aime, combien elle est remplie de cette passion, combien elle souffre et combien elle va se venger.
Oui, donc il y a une complexité dans ce personnage, on la sent, il y a une tension terrible qui est très perceptible au travers de l'œuvre que vous avez donc réalisée à la scène. Alors il y a aussi une magnifique cohérence avec Ismène, on se retrouve dans un univers très, très semblable. Ceux qui ont vu Ismène se rappellent de la force du choc de ce spectacle. Alors je vous propose... Bien pour en parler, parce que je trouve qu'il en parle vraiment très bien, d'écouter Georges Aperghis, le compositeur grec Georges Apergis, qui était votre compagnon d'aventure pour Ismène. C'est lui qui avait mis en musique tout cela. Là, pour Phèdre, c'est vous, Marianne, on va en parler tout à l'heure. Mais donc, il a un regard à la fois sur votre prestation, Marianne, et sur le travail d'Enrico Bagnoli. On l'écoute donc, Georges Apergis.
Moi, j'ai suivi beaucoup la dramaturgie, hein, la dramaturgie qui a été faite par Enrico et par Marianne. Mais ce que j'ai voulu essayer de faire, en fait, c'est de fournir à ce personnage des racines sonores. Hein. Ça veut dire des mélodies perdues. Ce qui équivaut dans, quand Rizzos parle de la confiture, quand il parle de la lune, quand il parle de la musique qui sort de la fenêtre, quand, les chevaux, les enfants, les jeunes qui se baignent, tout ça. C'est-à-dire fournir une mémoire qui est fausse, puisque c'est moi qui la recrée. Mais en fait, recréer, oui, une mémoire à ces personnages qui n'arrête pas d'avoir des idées qui lui passent dans la tête, des souvenirs, des choses qui viennent et qui nourrissent le texte. En premier, c'est ça que j'ai voulu faire, plus des états de ou de manque avec des souffles que Marianne fait. Enfin, Marianne, de façon, elle est géniale parce qu'elle passe du texte au souffle à des sons absolument rocs, de moribonds et de mourants. Et tout d'un coup, elle s'est mise à chanter de façon absolument mélodieuse. Et tout ça, ça va. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Mais c'est, oui, c'est une espèce de presque de mort, quoi. Hein, de quelque chose de, parce que, quand même, dans le texte de Rizzo, Ismène, on ne sait pas si elle n'est pas morte, en fait. On ne sait pas si c'est une morte vivante, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, j'ai voulu jouer un peu là-dessus. Enfin, mon projet, c'était ça, en tout cas.
Alors, on connaît votre travail sur les phonèmes, sur tout ce qui est le texte comme matériau sonore. Et ici encore, je crois que la langue dans laquelle vous faites chanter Ismène, Marianne Pousseur, est une langue imaginaire. On imagine du grec, à vrai dire, quand on l'entend comme ça.
C'est à partir du grec, en fait. Il y a des mots grecs qui signifient des choses. Par exemple, quand elle dit « on changeait nos habits », elle dit un mot qui veut dire « jupe ». Donc il y a tout le temps des choses toutes proches, mais en fait dans une configuration qui est plutôt sonore que de sens, parce que le sens c'est les choses, de toute façon c'est pas...
Oui, au total, c'est un travail d'un grand dépouillement, on peut dire, même s'il y a un grand travail au niveau de la scénographie, de tous les effets de lumière, etc.
Il faut en parler parce que je pense que grâce à Enrico Bagnoli, on voit des facettes du personnage. Tout d'un coup, on voit une petite fille, on voit une morte, on voit une très vieille, on voit une très jeune, on voit une femme qui est fière de son corps, on voit une femme qui a peur de son corps. Enfin, on voit tout ça, rien que parce qu'elle joue rien de tout ça. Ça, c'est très bien. Il n'y a rien à jouer, en fait. Il y a le texte, il y a la musique, et puis tout ce que tu apportes toi dans ta tête. Mais grâce aux lumières, justement, il n'y a pas à jouer, c'est la lumière qui donne des facettes, c'est comme un prisme en fait, avec différentes facettes de cette semaine qu'on essaye de cerner et qu'on n'arrive pas finalement. Mais on voit comme la même dans des âges différents, des fois on a l'impression qu'elle est complètement immatérielle, des fois on voit la chair, hein, des fois, c'est vraiment super.
Je t'ai fait appeler. Je ne sais pas par où commencer. J'attends. J'attends que la nuit tombe. Que les ombres grandissent dans le jardin. Qu'elles entrent dans la maison. Ombres des arbres et des statues. Qu'elle me couvre le visage, les mains. Qu'elle couvre mes paroles encore informulées et qui hésitent. Ces paroles que j'ignore, que je redoute. Je t'ai fait appeler tel que tu es. Non, préparez-toi aussi, avant que tu aies pu reprendre ton souffle et te rendre au bain, avec toute la poussière collée à ton beau visage et tous ces chardons de la forêt dans tes cheveux.
Marianne Pousseur, alias Phèdre. C'est le tout début du spectacle Phèdre de Yanis Ritsos, on le rappelle. Et on a entendu avant cela votre complice Georgia Pergis, qui décrivait tellement bien, non pas Phèdre, mais Ismène. Il y a tellement de parallèles à faire. Je crois que tout ce qu'il a dit vaut pour Phèdre, sauf que sur le plan musical, je le rappelle, Marianne, c'est vous qui avez assuré alors cette mise en musique. Mais on y vient, on y vient. Votre réaction par rapport à ce qu'a dit Georges?
Pour moi, c'est une émotion incroyable. Je ne m'attendais pas à réentendre sa voix ce matin et ça me touche beaucoup. Ça a été un compagnon d'aventure. D'une certaine façon, c'est grâce à lui que nous avons découvert Ritsos. Quand nous lui avons proposé de travailler sur Ismène ensemble, moi j'avais déjà travaillé avec lui dans d'autres circonstances. Quand nous lui avons proposé ça, il a dit « ça fait 20 ans que je rêve de travailler sur Ismène ». Et donc, il y avait une évidence. Et en même temps, le travail a été long, il a été fait de beaucoup d'allers-retours, il me connaissait bien.
Vous avez beaucoup travaillé ensemble, oui.
Et il a fait quelque chose que sans doute peu de compositeurs savent faire, c'est-à-dire qu'il a mis dans nos mains un cadre, un sol sur lequel nous pouvions construire quelque chose. Donc ce n'était pas une partition totalement finie, mais une partition à la fois très précise, pleine d'indications, très intelligente, très dramaturgiquement juste, mais aussi une partition dans laquelle il y avait beaucoup de place pour inventer, pour changer. Et donc cette chose-là était très, à la fois très touchante, mais aussi très encourageante par rapport à notre travail. Je ne pense pas que je me serais senti le courage d'aborder la composition de Phèdre si nous n'avions pas eu cette expérience-là avant, avec lui. Donc je lui suis vraiment très reconnaissante.
Et alors il souligne effectivement tout ce travail de lumière et de scénographie qui est tellement important pour la manière dont on perçoit le personnage seul en scène, Enrico Bagnoli. Alors, dans le petit extrait de Phèdre qu'on a entendu, il y avait la voix de Marianne Pousseur, et aussi des sons quasi imperceptibles. Je ne sais pas si nos auditeurs ont pu les entendre, mais voilà un gadget, je veux dire, c'est un vilain mot, mais une trouvaille qui est pleine de sens et qu'il faut qu'on explique. Ce sont comme des clepsydres, en fait, qui marquent le temps, des gouttes qui tombent sur une matière brûlante.
De la glace qui brûle. Oui.
Voilà, donc c'est comme l'eau et le feu, en fait.
C'est comme l'eau et le feu, c'est ce qu'on a toujours pensé au personnage de Phèdre comme atteinte par un syndrome bipolaire. En réalité, nous, on travaille beaucoup sur la dramaturgie, mais on travaille aussi avec un autre complice, Capadi, qui est une psychanalyste italienne d'excellente, une femme qui a beaucoup écrit, une grande théoricienne. Et donc, nos trois personnages, en réalité, sont aussi, on pourrait les appeler trois pathologies. On est en train de faire ce travail, on termine de faire ce travail sur Ajax. Donc, ils sont tous fortement reconduisibles à une pathologie. Dans le cas de Phèdre, son problème est un syndrome bipolaire. Donc, elle alterne, comme beaucoup entre nous, euphorie et dépression dans des cycles récurrents. Par moments, on a l'impression qu'elle s'en sort, qu'il y a une issue possible dans sa destinée. Et par d'autres moments, elle enfonce. Comme ça. Donc moi, je trouvais ça presque une tragédie tellement forte de l'oxymore, je dis toujours. Donc des contrastes, la glace qui brûle, ou ce qu'on appelle le chaos calme. Et donc, je voulais visuellement avoir des oxymores. Donc, l'idée d'avoir des fils rouges, de résistance, de la chaleur qui se termine par des points de glace qui, de nouveau, évaporent, donc changent d'état en émanant de la fumée blanche, en tombant sur des plaques électriques très chaudes, donner une idée en même temps de tension, en même temps de contraste, d'extrême contraste qu'on retrouve dans la lumière, et en même temps ce cadre scénique, on dit toujours cadre, mais donne vraiment l'idée d'un cadre, d'une cage.
L'idée de la prison.
Il y a l'idée de la prison. Moi, du début, je trouve que que Phèdre est tombée dans quelque chose indépendamment, que ça dépend d'elle ou ça dépend du pacte entre les deux déesses. Mais Phèdre est dans une cage de laquelle elle sait bien qu'elle ne pourra pas sortir. Ou elle pourra sortir avec le suicide, qui n'est pas vraiment une. C'est la solution, mais comme elle dit dans les textes, elle arrive toujours trop tard. La mort est la seule solution, mais arrive toujours trop tard. Donc je voulais que visuellement il y ait cette idée de cage. Mais comme toujours, dans mes décors, j'ai jamais envie d'affirmer trop les choses. Je n'ai pas envie qu'elles soient lourdes. Je préfère que les choses soient plutôt suggérées. Donc, du coup, le point de départ est plus ou moins le même. Pour moi, c'est comme pour un sculpteur auquel on donnerait un bloc de noir. Et alors, avec la lumière, avec cette délimitation de l'espace, on commence à sculpter ce bloc de noir. Dans ce cas, les fils rouges introduisent l'idée d'une cage, mais aussi d'un espace beaucoup plus grand. On peut être dans un petit théâtre ou dans un énorme théâtre. Du coup, le spectateur plonge immédiatement dans une autre dimension. Il n'a pas les dimensions de la pièce, il n'y a rien de terrestre. Et donc, on a aussi une image qui vient après avec la vidéo qui est projetée sur des lames. Mais de nouveau, si on veut voir ça, c'est comme si elle était derrière des barreaux. On la voit. Donc pour moi, c'était fondamental. Et alors, bon, bien sûr, on a pensé tout de suite à une cage de verre, des barreaux et tout, mais ça faisait cirque, ça faisait bête, féroce. Non, malheureusement, sa cage est une cage qu'elle s'est donnée elle-même. Mental. C'est une situation mentale. Ouais. Comme toujours, tous les spectacles, je dirais presque tous nos spectacles, très rapidement, on comprend qu'on plonge à l'intérieur de l'imaginaire. En même temps, du protagoniste, mais aussi et surtout du spectateur. Mmh. C'est-à-dire que le spectateur est l'artiste final qui récompose les différents niveaux sonores, visuels. Donc, la parole de Georges me faisait beaucoup plaisir parce que moi, je trouve que Georges est un grand musicien, mais c'est surtout un énorme dramaturge musical. Il ne serait pas ce qu'il est, Georges, s'il n'avait pas fait autant d'années. En réalité, le théâtre musical en France est né grâce à Georges Apergis, sans compter sa participation au grand spectacle de Vitesse. Donc, qui a vu un peu de... Il marque l'histoire du théâtre musical en France, il fonde l'ATHEME. Et donc, essentiellement, il a un regard dramaturgique. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a, dans nos spectacles, des couches dramaturgiques très fortes. Il y a une fortissime dramaturgie visuelle, une très très forte dramaturgie musicale et une forte dramaturgie du texte. Dans ce cas, c'était Guy Cassirs, qui autre être un excellent metteur en scène, est à mon avis aussi un excellent dramaturge. Et donc ces niveaux extrêmement forts, mais de toute personne comme Georges, d'une certaine génération, d'un certain âge, qui a un peu tout vu passer. Il a eu un énorme succès, il n'a pas eu de succès.
Il est aussi très indépendant.
Il est très indépendant, ouais. Et il peut se permettre de faire quelque chose d'extrêmement généreux, chose qui n'est pas facile. Il peut se permettre de faire quelque chose pour les autres, pour une toute petite compagnie, alors qu'avoir les gens regarder, disant « Comment Georges Apergis a composé pour vous ?» Il m'a dit « Bah oui, il a fait.
» Bien, alors vous rendez là un bel hommage à Georges Apergis. Alors j'ai un choix musical, soit Georges Apergis, c'est peut-être un peu ton sur ton, mais voilà. Et alors, un autre choix qui pourra vous intéresser peut-être aussi, c'est la couleur rouge. Vous avez parlé du rouge qui est très présent. Un madrigal rouge, je ne vous en dis pas plus, mais peut-être que vous serez alléché. Et puis un coup de chapeau à Apergis, qui est d'ailleurs bientôt dans l'actualité, puisqu'à Ars Musica, le 29 novembre prochain à Beaux-Arts, son Soldat inconnu. Donc une œuvre en lien avec la commémoration de la Grande Guerre. Alors, le madrigal rouge ou tout de même Apergis?
C'est à toi de choisir.
Marianne.
Le madrigal rouge me...
Ah bah oui.
M'interpelle.
Rose, 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 rose.
Et voilà, la langue italienne pour Enrico Bagnoli et le compositeur que vous avez reconnu, Marianne Pousseur.
Charrino, Salvatore Charrino.
Oui, avec lequel vous avez travaillé aussi. Oui, oui.
Nous avons travaillé tous les deux avec lui, dans des circonstances complètement différentes d'ailleurs.
C'est pas lui qui vous a fait vous rencontrer.
Non, non.
Et donc ici un madrigal rouge, comme je disais, Rosso Così Rosso, alors excusez-moi pour la prononciation, écrit sur un haïku de Matsuo Basho, donc un beau mélange, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi d'oriental dans le dépouillement de votre conception de la scénographie. Ben voilà, j'extrapole un peu, mais Enrico Bagnoli, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est les Neue Vocal Solistes de Stuttgart qu'on a entendu ici dans cet enregistrement. Une musique très, très suggestive.
Oui, c'est très beau.
Et un beau travail vocal également. Alors à propos de travail vocal, Marianne Pousseur, il y a ce travail de composition que vous avez fait pour Phèdre. Vous êtes lancée parce que c'est la première fois, en fait. Hein.
C'est la première fois. Je dois dire que quand j'étais jeune, j'avais déjà émis des petites choses comme ça, parce que je chantais dans un groupe un peu de jazz comme ça, et donc j'avais émis des toutes petites choses. Mais ici, c'est très différent. Et comme je le disais tout à l'heure, le mouvement avait été lancé d'une certaine façon avec Ismène, même si je ne fais qu'interpréter la musique de Georges. Ici... nous avons beaucoup réfléchi qui pourrait être un compagnon à la hauteur de Georges Apergis. Et on avait du mal. Et finalement, c'est pas qu'il n'y ait pas de bon compositeur, la question ne se pose même pas. Mais c'était plutôt de savoir ce qu'on voulait vraiment. Et au final, je pense qu'Enrico a aussi beaucoup contribué à me convaincre du fait que je devais tenter de prolonger simplement quelque chose que j'ai l'habitude de faire en réalité, qui est de me servir d'un terrain pour extrapoler, pour imaginer quelque chose.
Donc l'improvisation vocale au départ ou...
Non, il ne s'agit pas vraiment d'improvisation. En réalité, tout est né vraiment de la lecture du texte et d'une certaine qualité d'intimité que j'établissais avec Phèdre. En réalité, au début, Phèdre, je ne me sentais pas très proche d'elle. Et c'est vraiment en essayant d'imaginer la musique et comment je pourrais faire en sorte que la musique... fasse bien sentir la dimension sensuelle du personnage, que tout d'un coup, j'ai créé un sentiment d'intimité très fort avec elle. C'est étonnant, et donc, ça a été très interpellant pour moi. Et évidemment, je n'ai fait que mettre en œuvre des choses que je connais bien de moi-même, hein, de ma façon d'utiliser ma voix, et ce dont Georges parle, c'est-à-dire passer d'une chose à l'autre, chanter, parler, souffler, crier, mourir, etc. Et donc, voilà, toutes ces choses-là...
Mais cela dit, il y a au-delà de votre voix d'autres voix qui interviennent. On va d'ailleurs écouter un extrait.
Ah oui, mais c'est toujours la mienne. Hein.
Ah, c'est
oui,
toujours
c'est,
la
voix. C'est ah, très important. Non, ça, c'est deux choses que je voulais dire qui sont très importantes. C'est qu'il n'y a aucun autre matériel sonore qui ne dépend
que
pas
mon corps.
Que le corps de Marianne. Donc, ce
ou
qu'on
ce
entend,
qui est sur
c'est
scène.
Le corps, c'est samplé, etc. C'est toujours le seul matériel du spectacle. Et Marianne.
Moi, j'ai entendu des voix d'hommes, alors voilà.
Ah non, mais c'est moi, je peux aller très grave.
Voilà, tu en entendras d'autres dans un jazz, j'imagine, j'espère. Et l'autre chose, pour te répondre, c'est que nous, on a quand même un problème avec le fonctionnement de la production musicale. On trouve qu'il y a un énorme terrain entre l'opéra et les théâtres à remplir, et ce qu'on essaie de faire. Et l'autre chose, c'est que nous, on a mis 5 ans entre Ismène et Phèdre. Et justement, on a cherché, contacté et proposé la composition à différents compositeurs. Le problème se pose toujours au moment dans lequel on nous dit « Ok, vous me donnez les librettos, et après je vous compose, 2 ans après je vous rends la pièce, après vous l'interprétez. » Et à chaque fois, nous, face à ça, on a buté, on a dit « Mais non, c'est pas notre recherche, c'est pas ce qu'on veut faire. » C'est-à-dire que quand on est arrivé à un point de recherche très profond, on peut décider soit de répéter les mêmes choses, soit de ce point-là, commencer à creuser et essayer d'aller plus loin. Et pour moi, la seule forme pour aller encore plus loin du travail qui avait été fait par Georges, avec une énorme marge de liberté pour Marianne, pour l'interprétation, c'était qu'elle aille chercher dans des ressources, dans un défi impossible, quelque chose qui n'est pas la composition classique. Donc l'idée du livret, de la musique qui arrive un an avant, le spectacle, est pas possible pour nous. Donc tout se fait au plateau. Et il n'y a pas de hiérarchie entre... On peut travailler une séance de répétition sur un moteur, sur un système pneumatique, sur un son, sur un système... Parce que on est susceptible de trouver une forme capable de générer de l'émotion. Et dans ces cas-là, il faut que tout naisse organiquement de la matière qu'on connaît et qu'on peut proposer. Et donc, on se retrouve plus avec l'idée de dire, voilà, un livret écrit 2 ans à l'avance. Après, on va sur un plateau avec quelque chose qui nous colle. Donc, on est un peu parti.
Oui, on peut dire qu'avec cette fête, vous avez donc fait un grand pas en avant avec cette ambition de la compagnie Chroma de créer un spectacle total, donc à vous deux et avec des complices, bien sûr, notamment au niveau du son, je rappelle Dietrich de Kock, qui a mis tout cela en onde avec une très grande subtilité. Eh bien, voilà, je vous propose d'écouter le chœur Marianne Pousseur dans cet extrait de Phèdre. Voilà cet extrait du spectacle qui suscite beaucoup de commentaires en studio, comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte, avec Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli. On rappelle que Phèdre est au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles jusqu'à ce samedi 22. Pas d'autres dates pour le moment. Le spectacle a déjà beaucoup tourné.
Oui, nous allons à Marseille en janvier.
À Marseille en janvier. Et alors, je voudrais souligner qu'il y avait hier soir dans la salle, pour la première, des élèves, des étudiants. Vous avez fait un travail aussi d'accompagnement,
oui.
De classe, oui. D'école bruxelloise.
Oui. Nous sommes allés dans différentes écoles bruxelloises rencontrer les étudiants qui allaient venir voir le spectacle, parce que nous pensons que c'est important de leur introduire un tout petit peu. Je pense que ça va améliorer leur perception.
Oui, parce que ce texte n'est pas d'un abord
non, voilà.
Évident. Hein.
Et je trouve que le théâtre Les Tanneurs fait ça très très bien, dans le sens qu'il fait une préparation comme on a rarement fait. Donc, il soigne beaucoup. J'ai trouvé la qualité de concentration des élèves surprenante. Quoi. C'était un silence presque total. Et si ces choses-là sont bien préparées, ça donne de très bons résultats.
Et pour les avoir entendus à la sortie du spectacle, ils étaient vraiment bouleversés avec des réactions très, très extrêmes.
Viscérales.
Des choses qu'ils adoraient, des choses qui viscéralement leur faisaient mal. Donc c'est un spectacle qui bouleverse.
Je suis contente, juste une toute petite parenthèse, je suis contente que de la poésie, qui est quand même réputée quelque chose d'assez intellectuel, au final, donne lieu à quelque chose qui touche physiquement les personnes du public. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît.
Alors, le temps d'un autre choix musical, qui sera assez court sans doute, une bouffée d'Apergis que je vous repropose, ou alors un petit voyage en Grèce avec un petit Xenakis qui est pas mal du tout. J'ai l'impression que j'influence un peu votre choix, mais...
Xenakis.
Xenakis.
Un folklore grec imaginaire avec un tout jeune Yannis Xenakis, une pièce qu'il a composée en 1951. Wibert Arts et Arne de Force.
Temps de pause.
Temps de pause, c'est le moment de la pause photographique. Alors Enrico Bagnoli s'est chargé de prendre le Polaroid que l'on va découvrir très bientôt. Pour ne rien vous cacher, il a pris Phèdre en photo, enfin je veux dire Marianne Pousseur. Et donc c'est à Marianne de choisir la photo. Entre deux, vous avez choisi sans aucune hésitation, Marianne.
Oui,
de quoi s'agit-il ?
Ben, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on voit des cerfs. Groupés, très fortement serrés les uns contre les autres.
Donc des animaux.
Ça remplit toute la photo des animaux. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi. C'est que dans le Ajax que nous préparons, donc pour ceux qui connaissent l'histoire d'Ajax, ils savent que Ajax, au lieu de tuer ses camarades à cause de l'humiliation qu'il a subie, de ne pas recevoir les armes d'Achille, tue un troupeau de béliers. Et donc, nous allons travailler sur la présence animale en scène. Et donc, vous me suggérez cette photo, je ne pouvais que choisir celle-ci.
Alors, c'est une photo qui a été réalisée par Céline Clanet. C'est un élevage de rennes, en fait.
Des rennes,
effectivement. Moi, j'aurais dit des cerfs aussi. Et c'est une photo qui a été prise dans un village qui s'appelle Sami, situé tout en haut de la carte européenne, au-delà du cercle arctique, en Laponie norvégienne. Et donc, voilà, elle photographie là les gens, les maisons, les rennes, le territoire, qui est un territoire en danger, comme beaucoup sur notre planète, un paysage qui risque de se transformer radicalement dans les années, dans les décennies qui viennent. Nous allons conclure déjà cette émission, ça passe à toute vitesse, mais j'espère que ce temps de pause vous aura donné l'envie d'aller découvrir Phèdre sur la scène du théâtre Les Tanneurs à Bruxelles. Alors je voulais préciser aussi Enrico Bagnoli que voilà, vous travaillez avec la compagnie Chroma, mais avec bien d'autres acteurs, et notamment le 27 novembre prochain, vous serez au festival Rainy Days de Luxembourg, donc au Grand Théâtre de Luxembourg, avec une commande des percussions Strasbourg pour une mise en lumière d'un concert avec de la musique Duc Dufour. Voilà, je ne connais pas les précisions, mais en tout cas, c'est à Luxembourg que cela se passe. Alors, merci à tous les deux d'être venus dans ce temps de pause. J'entends déjà notre petit indicatif de fin d'émission, mais cela dit, la signature sonore, eh bien, Marianne Pousseur va nous la donner tout de suite. Assez brève, et ce sera donc un extrait de Phèdre.
Voici que ce crochet mette, voici que de pétata, crrr, sale que pétasse, rabatrrr. ta telle de quatre petas de la vectes scule de des esclaves, des esclaves, des esclaves. Salut, petit serpentin. Vec des esclaves. Salut, petit serpentin. Tes chaises et tes cheveux, choloca, les
Merci Marianne Pousseur, merci à tous d'avoir été des nôtres dans ce temps de pause. Dans un instant, le lunch concert sur Musique 3. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi en notre compagnie.
Don't stop for lunch, be ahead of your competitor. The Billows feeding machine will eliminate the lunch hour, increase your production and decrease your overhead.